Nous voici dans l'histoire de France.
Et pas seulement dans l'histoire de France.
Le retour des frontières.
On peut toujours passer les frontières. Il n'y a pas de frontières hermétiques. Et donc il n'y a pas de risque zéro. Si je disais le contraire, je mentirais aux Français. En revanche, nous devons tout mettre en œuvre, notamment au niveau des frontières de l'Union européenne, et que chaque pays, frontalier notamment de la France, joue pleinement son rôle, assume ses responsabilités, parce que si l'Europe n'assume pas ses responsabilités, alors en effet, c'est tout le système Schengen qui sera remis en cause.
C'est signé Manuel Valls, et oui, l'idéologie de la mobilité sans frontières est contredite par la réalité qui lui désobéit et revient l'idée que le monde, pour être vivable, a besoin de frontières. En cette matière, comme en bien d'autres, l'Europe de l'Ouest a tenté de construire une exception géopolitique. Les accords de Schengen, signés il y a 30 ans par 5 pays pionniers, ont permis la libre circulation à l'intérieur de l'Union. Mais les enquêtes de prospective tendues vers l'espoir d'un avenir pacifié n'avaient pas imaginé l'importance que pourraient de nouveau prendre les migrations vers l'Europe. Elles avaient aussi sous-estimé les effets de la fragmentation qui s'est accélérée à l'est du continent avec la naissance de nouveaux pays dans les années 1990. Le continent européen est de tous le plus morcelé. Et l'Union, de son côté, n'a pas construit à temps une politique commune suffisante dans le domaine des migrations et de l'asile. Maintenant, le manque de confiance s'est installé entre les pays de l'Union qui rêvent de passer de mistigris à des pays tiers comme la Turquie. Rarement la question des limites que nous espérions dissimuler sous le tapis n'a été aussi vive.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Michel Fouché, bonjour.
Bonjour.
Géographe, ancien ambassadeur, longtemps animateur du Centre d'analyse et de prospective du Quai d'Orsay, puis de l'Institut des hautes études de défense nationale. Ouf! Alors, vous êtes assez mécontent, Michel Fouché, du fait que les géographes de la politique, ou la géographie politique plus exactement, ne soient pas assez entendus en France.
Oui, même...
Si, vous avez le droit d'exprimer votre colère.
Oui, mais même dans l'ensemble de l'Europe. Mais bon, il y a eu en effet, pendant une trentaine d'années, une idéologie libérale économique du sans frontières, libérale démocratique du sans frontières, et qui consistait à estimer que l'État-nation s'était dépassé, que l'exercice des fonctions régaliennes s'était dépassé, qu'on n'avait plus besoin de gouvernement, mais simplement de la gouvernance. Bon, ça fait 30 ans que je travaille là-dessus. Et il faut se rendre compte aujourd'hui que il n'y a pas de retour des frontières, elles ont toujours été là. Ce qui a été changé à l'intérieur de l'Union européenne, c'est que certaines fonctions ont été supposément assumées en commun, notamment les fonctions de contrôle, certaines fonctions régaliennes. Et là, il y a un retour du refoulé, il y a un retour du symbolique. Les peuples européens, les nations européennes, c'est en Europe qu'on a inventé les États-nations, ont besoin de limites. Mais une limite, c'est pas une barrière. Il y a toujours cette confusion permanente dans tous les débats où je vais, c'est une exception ici, entre frontières et barrières. Une frontière, c'est un repère symbolique.
Hein, ici, il y a une puissance imaginaire.
La France, l'Allemagne. Bon, la France, l'Allemagne. On est amis, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même histoire. Et le travail, c'est travailler ensemble. Mais ça n'est pas tout mélangé dans une espèce de bouillie où personne ne prend plus de décision.
Donc, alors on va faire exception.
Il y a un retour de la réalité aujourd'hui.
On va essayer d'être pédagogue. Vous êtes pédagogue, vous, Michel Fouché, vous exprimez devant les auditoires les plus divers, les gens de Brest qui demandent à comprendre après les attentats, et vous étiez devant les dirigeants des gardes frontières iraniens il y a quelques jours.
À Machad, oui, bien sûr, ils s'intéressent beaucoup à la géographie politique française. D'ailleurs, il y a une école de géographie politique en Iran qui est tout à fait remarquable, et qui ne forme pas des chercheurs, mais des praticiens qui sont le maire de Téhéran et géographe. Certains généraux des Pajdaran sont géographes. On dit même qu'autour du guide et du président Rouhani, il y a des géographes, donc c'était tout à fait satisfaisant qu'il y ait là une demande, d'autant plus qu'ils ont déjà traduit 3 de mes livres.
Romulus devait être géographe puisqu'il a tracé une ligne imaginaire qui s'inscrivait ensuite dans la réalité, une frontière qui distinguait ce qui était Rome et ce qui n'était pas Rome. et Rémus a franchi, en riant, la ligne de Romulus qui, pris de colère, l'a tué.
Je ne sais pas si c'était une frontière. En l'occurrence, on est dans le symbolique. C'était une limite. Ça a donné le mot limes. C'est le templum, c'est-à-dire que on trace un espace sacré qui ne peut pas être traversé. C'est comme un atome. Ça n'est pas sécable. Et là, il a refusé au fond l'autorité de l'autre frère. Et on est un peu dans une situation différente, mais ça renvoie. Dès le début, tracer une limite, c'est parfaitement arbitraire. Alors, c'est soit divin, soit ça relève des hommes, mais c'est sacré. On s'est battu autrefois pour défendre les limites sacrées de la patrie.
Et le sang de Rémus irrigue la limite.
Nous avons oublié la portée du symbolique. C'est pas parce que, encore une fois, on passe librement entre Kiel et Strasbourg sur le pont de l'Europe jusqu'à ces derniers jours sans contrôle douanier ou policier qu'il n'y a plus de limite symbolique. On est dans un autre pays. Et c'est ça ce que j'espère on va retrouver aujourd'hui.
Alors, frontière, limes. Vous m'avez tapé sur les doigts, il faut faire attention à l'usage des mots. Je vais vous faire entendre la grande Marguerite Yourcenar, qu'un journaliste de France 3 en 1981, peu après la publication des mémoires d'Adrien, avait placé au nord de l'Angleterre, à l'extrémité de l'Empire romain du IIe siècle, sur le mur que son héros avait fait construire.
Et là, nous sommes au fort de Hausted.
Au fort de Hausted, maintenant.
Est-ce que nous apercevons ?
Ce sont les hauteurs qui dominent l'Écosse et les 4 siècles à peu près de paix romaine qui ont permis à l'Angleterre une sorte de civilisation urbaine et ont influé énormément sur l'Angleterre à venir, ont été en somme le produit de ce grand travail technique et militaire. C'est un ouvrage énorme. Et on pense à la phrase que j'ai prêtée à Adrien dans les mémoires d'Adrien, « Construire, c'est collaborer avec la terre ». Et on pense au travail incroyable d'arpentage, au calcul mathématique qui a dû représenter le choix de cette ligne qui va de l'Atlantique à la mer du Nord. Voici la margelle du puits ou de la citerne contre laquelle les légionnaires romains aiguisaient leurs glaives.
C'est assez mouvant de voir ces creux qui ont été faits il y a maintenant
17 siècles.
17 siècles.
Voici les canalisations, les conduites d'eau extrêmement complexe et savante, qui était réalisée un peu partout par des ingénieurs romains.
Sur une musique anxiogène, Marguerite Yourcenar, solennelle. Alors là, vous allez me dire, vous confondez Lebrun, mur et frontière, attention.
Non, là, les Romains parlaient de limes. Alors le mur d'Adrien, c'est en effet, en 122, après le début de notre ère, le point maximum de la conquête à cette époque. Adrien fait bâtir par 3 légions romaines une sorte de mur de pierre et de tourbe, mais qui ne fait que 117 km de long. Ça sert à défendre la partie romaine de ce qui va devenir l'Angleterre, contre les agressions des tribus calédoniennes de ce qu'on appellera plus tard l'Écosse. Ça marque la puissance symbolique de l'Empire sur ses périphéries, car l'idée c'est toujours de civiliser les périphéries, et donc on a à la fois des tours de guet qui sont intervisibles de nuit, il y a des feux, et en même temps des points de passage, parce qu'il y a du commerce, il y a des échanges, et l'Empire perçoit des taxes. Ça va fonctionner en paire avec le mur d'Antonin, qui est plus haut, et jusqu'au moment où les soldats romains deviendront paysans, mais ça dure 4 siècles et ça fonctionne. Alors, le mur d'Adrien, c'est fascinant, mais il y avait tout un dispositif de limes de l'Algérie jusqu'à Palmyre, en Syrie. Il y avait le limes du Danube, entre le Rhin et le Danube, ça a été extrêmement efficace, mais c'était à la fois des zones de défense efficaces, des limites symboliques, exprimant la supériorité de l'Empire et de sa civilisation, et en même temps c'était des zones de filtre, de façon à romaniser les barbares. Et d'ailleurs, ce sont des barbares romanisés qui mettront Rome plus tard à feu et à sang.
Donc c'est pendant la guerre froide qu'on a imaginé rétrospectivement ces murs comme étant absolument clos, comme ressemblant aux rideaux de fer, alors qu'ils ménageaient des ouvertures à l'époque romaine, comme aujourd'hui. Mais les clôtures qu'on construit ménagent des ouvertures.
La grande muraille de Chine, enfin les murailles de Chine, dont la construction s'étale sur 15 siècles, et c'est 100 fois plus long que le mur d'Adrien, ça sert à la fois à englober les zones conquises et à protéger les paysans, et ça sert évidemment à protéger un empire continental sédentaire, avec toutes ses dynasties successives, de la menace permanente en Chine, qui est celle des barbares de Mongolie, de Mandchourie, etc. On n'a pas eu le même dispositif, par exemple, au Moyen-Orient, ce qui fait que Bagdad a été complètement détruite par les Mongols au milieu du XIIIe siècle, et je dirais d'une certaine façon, ça ne s'est jamais remise. Mais à l'époque, j'ai parlé de l'Iran, entre les Perses, l'Empire perse et l'Empire ottoman, mais déjà avant, entre les Arabes et les Byzantins, il y avait des dispositifs frontaliers avec des forteresses. Il suffit de regarder le vocabulaire. Il y a des termes, had, houdoud, et avec une distinction déjà, par exemple en persan, entre la frontière limite, administrative et politique, et le front militaire. Donc, je dirais à l'origine est le sacré. Puis le militaire et le défensif, mais aussi le filtre, de façon au fond à romaniser, siniser, persaniser, ottomaniser. C'est pas toujours possible partout. Et on n'a pas toujours des génies stratégiques derrière. Le rideau de fer n'est pas un mur. Le seul mur, c'est le mur de Berlin. Mais là, le mur de Berlin, c'est assez unique. C'est une figure de l'interdiction. Interdiction de quoi ? De sortir. Alors qu'aujourd'hui, on se débat en Europe avec l'interdiction d'entrer. C'est pas la même problématique du tout, parce que l'Europe est attractive.
Le rideau de fer n'est pas un mur. Et les clôtures qu'on érige un peu partout, c'est un abus de langage. Soyons précis dans le vocabulaire.
C'est un abus de langage. Si on les appelle murs. Murs, ce sont des clôtures de barbelés qui sont d'ailleurs assez facilement franchissables. Enfin, ça complique la vie. Ça coûte plus cher et ça complique la vie et ça augmente le risque de ceux qui, de toute façon, veulent les franchir.
Peu à peu, on entre dans le monde contemporain. Je vous propose d'écouter cette chanson assez étonnante de Gilles et Julien qui date de 1935, où vous verrez qu'on parle de barrière. Alors, barrière, c'est pas la même chose que mur et que clôture. Et barrière, dans le langage de Gilles et Julien, ça a un sens très économique. La question du marché, la question du tarif, ça intervient aussi dans le débat qu'on va aborder.
Barrières, truc inventé pour embêter l'humanité dans tous les endroits réputés pour leur attrait, pour leur beauté. Partout autour, devant, derrière, il y a des barrières. Ainsi chacun est bien gardé. Il ne faut pas se hasarder à franchir toutes ces frontières, car prudent chaque propriétaire, pour être sûr qu'aucun vaurien ne mettra le pied sur son bien, pose des barrières et puis derrière des gardes-barrières. Les hommes d'État au cerveau court qui cherchent au petit bonheur chaque jour en d'interminables discours la meilleure des solutions pour sauver l'Europe disent soyons frères, faut plus de barrières. Mais les marchands de soupe dépités s'en vont trouver leurs députés et leur ordonnent de n'en rien faire, car les affaires sont les affaires. Les députés, dans la terreur de déplaire à leurs électeurs, veulent renverser le ministère.
Démission, démission, démission!
Vite, des barrières! Bientôt sénateurs, députés et ministres sans s'épater, assiettes au beurriste patentées, ne seront plus l'hiver, l'été, le long de la frontière douanière que des gardes-barrières.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Nous parlons du retour des frontières avec Michel Fouché, géographe. Et là, Gilles et Julien parlaient des barrières. À l'horizon de ceux qui érigent les barrières, à l'horizon de ceux qui veulent enlever les barrières, il y a des intentions économiques. Oui, elle est bien cette chanson.
Elle est formidable et d'actualité. On devrait la diffuser sur les sites internet de tous les ministères et à la Commission de Bruxelles. Oui, la barrière dont il parlait, c'était l'octroi. Autour de Paris, entre le bourg et le faubourg. Hein, il y en avait une à Domfer-Rochereau, par exemple. Là, il s'agissait de taxer les marchandises qui entraient à Paris. Pendant longtemps, le ministère de la barrière, c'était le ministère de la Défense. Aujourd'hui, c'est le ministère de l'Intérieur, et c'est complètement différent. Hein. Et je crois que toute la problématique actuelle avec risque terroriste, risque avéré, malheureusement, tragiquement, questions migratoires dans toute leur complexité, asile, migration économique, réfugiés. On voit très bien que c'est une question qui a été impensée pendant très longtemps. Les Européens en paix ont complètement diminué les budgets de défense. C'est devenu la variable ajustement, ce qu'on a appelé les dividendes de la paix après 1989. Et là, on découvre brusquement et on met sur le dos de ministres de l'Intérieur qui sont au charbon jour et nuit, notamment Bernard Cazeneuve, des missions quasiment impossibles puisqu'on veut de nouveau sacraliser, sanctuariser, rendre hermétique des frontières.
Retour dans un passé immédiat, un peu avant 89, les accords de Schengen qui sont signés dans un village à la conjonction du Luxembourg, de la France et de l'Allemagne, qui propose à partir de l'horizon 1995 une liberté de circulation interne. Vous allez être heureux d'entendre la secrétaire d'État aux affaires européennes du gouvernement Fabius, Catherine Lalumière. Et puis, parce qu'il n'y a pas que la libre circulation, vous entendrez le ministre belge de la justice, qui parle, lui, banque de données et fichiers. Et d'abord, le journaliste.
Et si l'Europe commençait à exister avec la suppression à partir d'aujourd'hui des contrôles de police et de douane entre 5 pays du marché commun, les 3 du Benelux, l'Allemagne et la France. Cet accord a été signé solennellement sur la Moselle, à Schengen, par 5 ministres européens, dont Catherine Lalumière pour la France.
C'est un symbole de la volonté de faire, progressivement, mais de faire l'Europe des citoyens, avec des facilités de franchissement des frontières beaucoup plus grandes que dans le passé. Et tout ce qui va rendre plus facile, plus rapide le franchissement des frontières est, je crois, dans la vie courante, un avantage non négligeable.
Sirène, c'est le nom de code des équipes qui supervisent la gigantesque base de données du système d'information Schengen, notamment 2000 signalements de personnes recherchées ou interdites de séjour. Dès demain, ces données seront consultables d'un bout à l'autre de l'Europe.
Quand en Belgique quelqu'un est signalé parce qu'on le recherche, parce qu'il doit être arrêté ou parce qu'il est étranger illégal séjournant sur notre territoire, toutes ces informations sont communiquées au service des 6 autres pays. Et donc ils seront obligés juridiquement de donner suite à ce signalement, donc d'arrêter la personne et puis de refaire passer l'information vers le système de police, le service de police belge.
C'est ce que vous disiez, Michel Fouché, Schengen, ce sont aussi des banques de données, et l'exploitation de ces banques de données sont confiées à l'Intérieur, parfois, on peut le souhaiter, à la justice, et Dieu sait s'il y en a, SIS, Eurodac pour les empreintes digitales, Frontex qui a été mis en place en 2005, c'est aussi d'abord une gestion de banques de données.
Oui, bien sûr. Rappelons que Schengen, donc petit village viticole, sur le tripoint Allemagne, France, Luxembourg au titre du Benelux, c'est pour ça qu'on a choisi Schengen, à l'origine une initiative d'Helmut Kohl qui faisait face à des grèves de camionneurs allemands qui en avaient assez d'attendre pour aller charger au port de Rotterdam. C'est ça le départ. C'est l'Europe des marchands. Et c'est une décision qui est prise un peu de manière subreptice. Il faut 10 ans entre la signature et la mise en œuvre. Mais ça ne concerne que la libre circulation des États signataires de la Convention à l'intérieur du territoire européen. Et on n'a pas pensé à la suite, parce que, une fois de plus, mais c'est pas une critique, c'est une phase historique qu'on est en train de sortir, heureusement, les Européens sont à la fois obsédés par le dépassement de leur passé, tragique, guerrier, et par leur propre construction interne. Ils n'ont pas de pensée géopolitique, encore moins de pensée stratégique. Mais ils ont su répondre à la fin du rideau de fer, en proposant aux Polonais et aux autres de devenir comme eux, et ça a très très bien marché. Mais on n'a jamais réfléchi, jusqu'aux affaires migratoires qui commencent aux Canaries, et à Gibraltar, il y a déjà presque 7-8 ans, on n'a jamais eu une pensée collective sur la question, non pas des frontières de Schengen, mais des frontières extérieures de l'Union européenne. Et pour aller très vite, j'ai longtemps pensé, sans l'avoir vraiment dit, ni écrit, je l'ai écrit une ou deux fois, que dans toute cette réflexion sur les frontières ultimes de la construction européenne, il faudrait bien un jour qu'on détermine là où on est capable d'exercer le contrôle migratoire. Et je pense qu'on en est là. Et je suis en train de réfléchir à quelque chose qui serait de créer, parmi les 28, avec quelques États, l'équivalent d'une zone euro. Tout le monde n'est pas dans la zone euro. Eh bien, on peut imaginer d'avoir un système de contrôle des frontières extérieures, non pas à 28, parce que c'est impossible, notamment en Grèce, mais dans un espace plus restreint. Pourquoi pas en commençant par les 6 États fondateurs.
Parce qu'il y a deux possibilités. Vous excluez la Grèce, déjà implicitement.
Il n'y a pas d'État en Grèce, et puis surtout, il y a une géographie insulaire.
La mer.
Et puis, l'absence de coopération de la Turquie. Imaginez des patrouilles militaires communes entre la Grèce et la Turquie, des patrouilles navales communes. Impossible. Donc, c'est pas là qu'on doit faire le
contrôle.
Alors,
il y a deux. Deuxième possibilité, c'est Croatie, qui ne fait pas partie de l'espace Schengen pour l'instant, Slovénie, et on se heurte à la question hongroise. Et puis vous allez me dire que c'est une zone balkanique qui relève d'une guerre très longue et qui est lourde de dangers. C'est soit ça, soit un noyau dur,
beaucoup plus
en arrière.
Il faut réfléchir, il faut prendre les grands pays, en particulier les pays qui sont ciblés par les gens qui prennent leurs ordres en Syrie ou en Irak ou en Algérie. Donc, il faut chercher dans un premier temps l'efficacité. Hein. Et en distinguant la liberté de circulation à l'intérieur pour les citoyens européens et le fait d'avoir d'édifier des frontières communes où la fonction de contrôle et donc de sécurité serait effectivement exercée.
Parce que quand les limites mettent une Europe de très grande dimension, ça fait des milliers et des milliers de kilomètres. Je crois que 60% des kilomètres de l'Union sont un peu protégés maintenant. Mais si on veut équiper, selon le dernier cri high-tech, c'est 2 à 3 millions de dollars le kilomètre. Alors, deux exemples. Le premier sont les comptoirs espagnols de Ceuta et Melilla.
Melilla. Confetti de territoire espagnol au nord de l'Afrique, 7 km de côte, 10 km de frontière terrestre avec le Maroc. C'est l'une des portes vers l'Europe pour les immigrants maghrébins, subsahariens, asiatiques. Une porte fermée par la baïa, cette double cloison grillagée, haute de 7 mètres.
Le mur comporte un câble de détection. Quand on touche la cloison extérieure, une alarme se déclenche au centre opérationnel de service. De là, on dépêche nos patrouilles.
Cloison multiple en acier, alarme, vidéosurveillance. Aujourd'hui, les clandestins savent qu'il est presque impossible d'escalader le mur.
Si quelqu'un monte la première barrière et tombe sur les câbles, alors ces câbles se referment sur lui, se tendent et cela laisse aux immigrés des blessures terribles.
L'Europe tremble d'être envahie, alors pour la rassurer, la Slovaquie a monté un mur virtuel. Partout, des caméras scrutent la frontière avec l'Ukraine. Une frontière longue d'à peine 100 km, mais où 100 millions d'euros ont été investis avec l'aide de l'Europe pour en faire le passage le plus surveillé du continent. De jour comme de nuit, chaque mouvement provoque une alarme. Le système fait la différence entre hommes et animaux. Diane, ex-ingénieur, a été débauché par les gardes frontières. Depuis 2007, il gère un parc de 500 caméras. Il en est sûr, son système est infaillible.
On a eu des cas de migrants très sportifs, des footballeurs de haut niveau qui ont essayé. On les a tous rattrapés.
Archives Inter et Culture, la baisse tendancielle, Michel Fouché, dont vous parliez, des dépenses de défense est compensée par la hausse des dépenses de sécurité qui crée un marché prospère. Certains disent xénophobie business.
Oui, mais bon, le cas de la Slovaquie, c'est intéressant parce que il n'y a pas de pression migratoire en provenance de l'Ukraine aujourd'hui. Ceuta et Melilla, moi, on pourrait très bien imaginer un scénario où ces deux enclaves, ces anciens présides, seraient restitués au Maroc. Ça simplifierait les choses. Vous savez, dans l'histoire de la formation des frontières, il y a un concept qui est le passage à la linéarité. C'est toute l'histoire du XVIIe et du XVIIIe siècle. En France, par exemple, il y a eu Mestou-les-Verdins, il y avait des enclaves, il y avait des échanges en fonction de liens matrimoniaux, etc. Et puis on a progressivement, on est passé des confins et des marches avec des enclaves à la ligne. On a exactement la même problématique aujourd'hui, hein, dans le cas par exemple de la Grèce et de la Turquie. Donc je pense qu'il faut regarder là où les États sont capables d'exercer un contrôle. Mais c'est pas seulement aux frontières qu'il faut exercer le contrôle, c'est dans l'échange d'informations, et ça, ça ne fonctionne pas.
Et puis les frontières sont délocalisées. C'est pas par Vintimille qu'on entre le plus en France. À oui, ma connaissance, enfin, c'est par Roissy.
Oui, mais enfin, ceux qui nous agressent ne sont pas passés par Roissy.
Dites-moi.
Par contre, ils font Istanbul, Bruxelles, avec des étapes à Prague. Et là, on perd leur trace. On a la trace au départ à Istanbul, si les Turcs veulent bien. On peut la voir à l'arrivée à Bruxelles, mais ils sont passés par Prague, donc ils coupent la surveillance.
Mais je voulais quand même vous faire réagir sur la tonalité des propos qui étaient tenus dans les deux reportages qu'on vient d'entendre. Ça fait sans même sursauter. Les sportifs de plus haut niveau ne peuvent pas passer. Même des centaines de gens qui voudraient franchir le rideau de Mélina ne pourraient pas passer. C'est quand même étrange dans l'histoire des clôtures qui se mettent en place aujourd'hui, ça vient souvent de pays qui se veulent démocratiques et oui, exemplaires en la matière. Les États-Unis et le Mexique, Israël, l'Inde et le Bangladesh.
Oui, il ne faut pas tout confondre. Israël, c'est une clôture de sécurité. C'est une clôture de sécurité, mais il y a 80 points de passage entre la Cisjordanie et Israël. Parce qu'Israël a besoin de la main-d'œuvre palestinienne et du marché palestinien. En Cisjordanie, on paye tous ses produits israéliens en shekel. États-Unis, Mexique, c'est encore un fantasme. C'est la frontière la plus ouverte du monde pour les migrants légaux. Hein, entre San Diego et Tijuana, vous avez 40 millions de franchissements par an. Il y a des centaines de camions avec 2,5 milliards de dollars de marchandises chaque jour, parce que vous avez des usines d'assemblage au sud. Inde-Bangladesh, c'est différent, c'est une frontière migratoire. Inde-Pakistan, c'est une frontière stratégique. Elle est fermée, éclairée la nuit et visible d'avion, ça m'est arrivé de la voir en allant à New Delhi. Donc l'idée, encore une fois, c'est la problématique du limès romain. On assure un contrôle et on filtre les entrées, mais on est ouvert aux échanges. C'est ça la bonne frontière. La bonne frontière, c'est la ligne de passage contrôlée.
Merci à vous, Michel Fouché. Une édition en 2012 chez Perrin de votre obsession des frontières. Et puis une interview de vous dans le journal Les Échos. Aujourd'hui, l'émission a été préparée par Frédéric Martin, Franck Olivard, Eline Calégulesco, Martin Penet et Guillaume Scaillet. Elle était réalisée par Jacques Sigal.